Laudetur Jesus Christus.
Échange de tirs inquiétants à la frontière entre Israël et le Liban. L'armée israélienne revendique des raids aériens sur le Liban Sud, les premiers depuis 2014. Une riposte à des tirs de roquettes ayant atteint hier son territoire. On y revient juste après les titres. En Afghanistan, les talibans annoncent de nouvelles attaques ciblées contre Kaboul. Londres a indiqué hier intensifier son programme de relocalisation des traducteurs afghans ayant travaillé pour son armée. Éclairage dans quelques instants. Au sommaire également, les incendies qui ravagent la Turquie. 8 personnes sont mortes dans le sud du pays. Des centaines d'habitants ont été évacués. Les flammes menacent une centrale thermique aux abords de la ville de Minas. Et puis nous reviendrons sur les conséquences du conflit au Tigré en Éthiopie. La famine menace des centaines de milliers de personnes. La directrice de l'Agence américaine d'aide internationale alerte sur la situation dans la région.
Radio Vatican, le journal Hélène Détombe.
Bonjour. Pour la première fois depuis 2014, l'armée israélienne a mené la nuit dernière des frappes aériennes au sud Liban. Une riposte aux tirs de roquettes qui avaient visé le nord d'Israël la veille. Ces frappes font craindre une nouvelle escalade dans la région. La correspondance de Lucas de Villepin.
Dans la nuit, l'artillerie et les avions de combat israéliens ont visé des sites de lance-roquettes près de la ville de Mahmoudia, au sud du Liban. Les raids ont ciblé des zones inhabitées sans faire de victimes. Une riposte au tir non revendiqué de 3 roquettes vers le nord de l'État hébreu hier. Si l'attaque vient probablement de groupes palestiniens locaux, le porte-parole de Tsahal dit considérer le gouvernement libanais comme responsable de ce qui se passe sur son territoire. Israël ne cherche pas l'escalade avec son voisin, mais répondra coup pour coup à toute agression, ajoute-t-il. Le ministre de la Défense Benny Gantz s'en prend quant à lui à la FINUL, la force onusienne de maintien de la paix à la frontière, qu'il critique pour son inaction. Côté libanais, le président Michel Aoun dénonce lui une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant le conflit entre les deux pays et une menace pour la stabilité régionale. Lucas de Villepin à Tel Aviv pour Radio Vatican.
Le Liban était en deuil hier, un an après l'explosion sur le port de Beyrouth qui a fait plus de 200 morts. Les Libanais ont crié leur colère face à l'impunité de la classe politique. Des heurts dans la capitale entre manifestants et forces de l'ordre ont fait 8 blessés. Une messe a été célébrée dans la soirée par le cardinal Béchara Boutros-Rahi, le patriarche maronite d'Antioche et de tout l'Orient. Beaucoup ont souhaité que cet anniversaire soit un jour de colère, de manifestation et de condamnation, a-t-il reconnu, tout en insistant sur la recherche de la consolation divine. Plus d'informations sur notre site vaticannews.va. C'est aujourd'hui que le nouveau président iranien prête serment devant le Parlement. Ebrahim Raisi, ultra-conservateur qui succède à Hassan Rouhani, a pris ses fonctions mardi dernier après l'approbation de son élection par le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Il s'est engagé à tenter de lever les sanctions américaines imposées à son pays. De nombreux défis l'attendent, redresser une économie exsangue, faire face à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et relancer les pourparlers pour sauver l'accord international sur le nucléaire conclu en 2015. Aucune accalmie en Afghanistan. Après avoir revendiqué l'attentat de Kaboul, les talibans ont annoncé de nouvelles attaques contre des responsables du gouvernement afghan. Les armées afghanes et américaines ont procédé ces derniers jours à de multiples bombardements aériens pour tenter d'entraver l'avancée des insurgés. Une contre-attaque des forces afghanes a débuté à Lashkarga, dans le sud du pays, où 40 civils ont été tués. C'est dans ce contexte que le gouvernement britannique s'est engagé à relocaliser au Royaume-Uni 500 Afghans supplémentaires ayant travaillé pour son armée, essentiellement des traducteurs, soit au total 2500 personnes en comptant leurs familles. À Londres, Jean Jaffré.
1400 employés et leurs familles ont déjà été acheminés vers le Royaume-Uni, doublant le nombre de personnes concernées depuis 2014. Le ministre de la Défense, Ben Wallace, et la ministre de l'Intérieur, Priti Patel, ont souligné dans un communiqué, je cite, « l'énorme dette de gratitude à l'égard des interprètes locaux et autres personnels qui ont travaillé pour les troupes britanniques stationnées principalement dans la province d'Helmand ». Ce programme restera ouvert indéfiniment à tous ceux qui sont éligibles. Il n'y aura ni quota ni limite sur le nombre total, assurent les deux ministres. Par ailleurs, les grands médias demandent au Premier ministre Boris Johnson de suivre l'exemple du président américain Joe Biden et de mettre en place un programme spécial de visa pour la centaine d'Afghans qui ont joué un rôle vital en informant le public sur les combats et le rôle de l'armée britannique ces 20 dernières années. Si on les abandonne, affirment les auteurs de la lettre, ils risquent d'être persécutés, d'être torturés et tués par les talibans, chassés du pouvoir en 2001 et qui ont lancé une offensive depuis l'annonce du départ des forces américaines de l'Afghanistan. Long Jean Jaffré, Radio Vatican.
Et l'Union européenne a appelé ce matin à un cessez-le-feu urgent, complet et permanent en Afghanistan, condamnant l'intensification des attaques menées par les talibans. Des exercices militaires menés par la Russie ont débuté aujourd'hui au Tadjikistan, à quelques kilomètres de la frontière afghane. Une opération conjointe avec l'Ouzbékistan et le Tadjikistan qui doit mobiliser quelque 2500 militaires. Il s'agit d'éviter un éventuel débordement du conflit afghan en Asie centrale. En juin dernier, les talibans ont pris le contrôle du principal poste frontière entre l'Afghanistan et le Tadjikistan. La Turquie fait toujours face à de nombreux incendies. Des feux de forêt ravagent depuis plus d'une semaine le sud du pays. 8 personnes sont mortes. Les flammes ont atteint hier soir une centrale thermique située à Milas, dans la province de Moula. La préfecture a ordonné l'évacuation d'une dizaine de quartiers autour de l'installation. À Istanbul, les précisions d'Anandlower.
Un brasier aux portes d'une centrale thermique. C'est la dernière image symbole des incendies qui ravagent depuis 8 jours le sud de la Turquie. À l'aube ce jeudi, au terme d'une nuit éreintante, les pompiers ont finalement réussi à contenir le feu dans la centrale de Milas. Le danger n'est pas écarté pour autant et les vents menacent de provoquer un nouveau départ de feu. La préfecture a fait évacuer une dizaine de quartiers autour de la centrale. Selon les autorités, cette dernière a été vidée de ses substances explosives, mais le moindre incendie ici menace les stocks de charbon, faisant peser le risque d'une grave pollution de l'air. Les mairies des villes concernées, détenues par l'opposition, dénonçaient depuis plusieurs jours le manque de moyens pour combattre les flammes à proximité de la centrale. Le président Recep Tayyip Erdogan leur a répondu lors d'une interview à la télévision, soutenant que ces mairies étaient responsables de la gestion des incendies dans les zones habitées. Ce midi, des feux étaient encore actifs dans une quinzaine de forêts du sud de la Turquie. À Istanbul, un doigt pour Radio Vatican.
La Grèce subit elle aussi de nombreux feux de forêt. Une dizaine de villages et un monastère sont notamment menacés par les flammes sur l'île d'Eubée. Le conflit dans le Tigré risque d'enflammer l'Éthiopie tout entière si les rebelles ne se retirent pas des régions d'Amara et Afar, où la famine menace des centaines de milliers de personnes. L'appel est lancé par la directrice de l'Agence américaine d'aide internationale. Samantha Power déplore par ailleurs les entraves à l'aide humanitaire. Seuls 10% de cette aide a pu arriver le mois dernier aux populations du Tigré. Les précisions de Jean-Charles Puzolu.
Le conflit qui oppose gouvernement éthiopien et forces du Front populaire de libération du Tigré depuis novembre ajoute à l'aspect militaire une pression humanitaire et déborde sur une guerre de communication. Sur ce dernier point, le gouvernement d'Addis Abeba a accusé 2 ONG, la branche hollandaise de Médecins sans frontières et le Conseil norvégien pour les réfugiés, de faire de la désinformation sur les réseaux sociaux et ordonner la suspension de leurs activités pour une durée de 3 mois. MSF avait dénoncé les exécutions extrajudiciaires et l'association norvégienne avait pour sa part pointé du doigt les blocages des convois humanitaires. Un blocage qui complique la grave crise qui sévit au Tigré où 5,2 millions de personnes, soit 90% de la population, dépendent de l'aide humanitaire selon des données fournies par les Nations Unies. L'agence américaine d'aide internationale a fait les comptes. Entre le 15 juillet et le 2 août, sur 1500 camions d'aide humanitaire destinés au Tigré, seuls 153 ont pu franchir les lignes et atteindre leur objectif. Si le gouvernement éthiopien a effectivement décrété un cessez-le-feu pour faciliter l'acheminement de l'aide, les rebelles ont, eux, poursuivi l'offensive, d'où l'impasse et l'appel de l'agence américaine au retrait des forces tigréennes des régions d'Amara et Afar.
Jean-Charles Puzolu. Au Tchad, 24 militaires ont été tués, plusieurs autres blessés dans une attaque de Boko Haram. Elle a eu lieu hier dans la région du lac Tchad, en proie à de nombreuses incursions de djihadistes. Le Japon fait face à une hausse importante des cas de contamination au coronavirus liés aux variants Delta, avec pour la première fois plus de 5000 nouveaux cas en 24 heures. Le gouvernement a ainsi décidé d'étendre les restrictions à 8 départements supplémentaires. Et en France, le président Emmanuel Macron a indiqué ce matin qu'une 3e dose de vaccin serait vraisemblablement administrée en septembre aux personnes les plus fragiles et les plus âgées. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une belle après-midi. Au revoir.